l'Académie de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
François Maspero, disparu en 2015, reste davantage connu pour son travail d'éditeur et de libraire que pour son œuvre d'écrivain. Il le fut aussi, pourtant, et publia en 1984 son premier roman, Le sourire du chat. C'est pour ce livre qu'il fut invité à participer, le 6 avril 1984, à l'émission de Bernard Pivot, Apostrophe, institution télévisuelle hebdomadaire suivie par des millions de téléspectateurs et capable de lancer ou non la carrière d'un livre. Ce jour-là, Bernard Pivot avait aussi reçu un autre écrivain débutant dans l'exercice, Annie Ernaux, pour son livre La Place. Claude Duneton, qui animait chaque semaine sur France Culture Chronique de la langue parlée, eut la belle idée de les suivre tous les deux avant, pendant et après l'épreuve pour une série de deux émissions. Après avoir suivi Annie Ernaux dans la première, on écoutait dans la seconde François Maspero dire et analyser son malaise, ô combien légitime, face à l'exercice. Apostrophe numéro 2, l'alternative de Maspero, une émission diffusée pour la première fois le 28 octobre 1984.
C'est une émission, une sorte qui fait que l'on dans laquelle enfin c'est une chronique de la langue parlée. Une émission de Claude Duneton.
Apostrophe numéro 2, avec François Maspero, invité pour son livre « Le sourire du chat ».
Si d'aucuns s'amusent à l'idée que la guerre peut retrouver cette terre de France, personnellement, je ne m'en réjouis pas, non pour des raisons mystérieuses de politique, mais parce que je continue à penser que pour venger la France, l'Angleterre, comme Carthage, doit être détruite.
Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand, Radio Paris. Radio Paris, Radio Paris est allemand.
Ans passés. On m'en donne souvent plus. Je n'ai certainement pas fini de grandir. Et pourtant, je sens qu'en moi, je ne grandirai plus. La plupart me parlent comme à un enfant. Je les trouve ridicules. Quelques-uns me parlent comme à une grande personne et j'ai l'impression de les tromper. Je peux les suivre, c'est tellement simple. Il suffit de prendre l'air attentif, de hocher de temps en temps la tête, mais non leur répondre. J'apprendrai certainement encore beaucoup de choses. Mais je ne serai jamais plus intelligent qu'aujourd'hui. Je ne comprendrai pas mieux que maintenant, surtout si Antoine n'est pas là. Sans lui, je ne pourrai que survivre en me débrouillant. Je me débrouillerai. Je ne serai plus jamais un enfant. Je ne serai jamais une vraie grande personne. je m'appliquerai à faire semblant. Je serai toujours assez fort pour leur ressembler. Je tricherai, c'est tout. Personne ne s'en apercevra, sauf moi.
Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Les girafes ne portent pas de faux col. Clémentine peut se curer les dents. Andromaque se parfume à la lavande. Nous répétons, Andromaque se parfume à la lavande. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Jeanne a faim.
Je n'ai jamais passé apostrophe.
Pourquoi ?
Parce que j'ai jamais écrit de livre.
Cette déclaration de François Maspero avait lieu 5 jours avant l'émission de Bernard Pivot du 6 avril 1984. Il y passait pour son livre « Le sourire du chat » qui parle d'une enfance sous l'occupation. Maspero était invité en même temps qu'Annie Ernaux, que nous avons également suivi dans le compte à rebours de son angoisse télévisuelle. L'angoisse, le trac, on peut dire aussi la panique qui s'empare quelquefois de ceux qui doivent participer pour la première fois à une grande émission en direct.
François Maspero, vous avez été éditeur pendant 23 ans. D'ailleurs, votre maison d'édition portait votre nom, les éditions Maspero. Vous avez été aussi libraire pendant 19 ans. C'est ça, 19 ans. Alors évidemment, ces deux activités ont été concomitantes pendant 14 ans. Vous avez créé et dirigé les revues Partisans et Tricontinental. Vous dirigez actuellement la revue L'Alternative, qui est consacrée au Pays de l'Est. Et vous faites vos débuts d'écrivain avec un roman à caractère autobiographique intitulé « Le sourire du chat » aux éditions du Seuil.
C'est vrai, Maspero est un personnage célèbre pour son rôle important de chevalier de l'édition marginale et de la pensée militante aussi durant les années 1960-70. Mais c'est un homme connu pour sa réserve, son manque d'aisance dans les prises de parole en public. Il n'échappait donc pas à cette inquiétude générale à laquelle ceux qui publient des livres aujourd'hui sont obligés de faire face. En effet, de nos jours, un écrivain prend une sorte d'engagement tacite, ou même parfois très explicite, de participer à la promotion de son livre. Ce sont des conditions à la fois sociale et économique, auquel il est bien difficile de se soustraire et que François Maspero, ancien éditeur lui-même, connaît parfaitement. Il n'avait donc en l'occurrence aucune alternative, je dirais, et nous l'avons accompagné dans sa pérégrination à la fois du trac maîtrisé et de l'affrontement avec le public. Nous lui avons parlé quelques jours avant apostrophe, puis sur le plateau d'Antenne 2, et le lendemain, nous avons recueilli ses impressions à chaud et ses commentaires.
En fait, tacitement, on n'avait jamais prononcé le mot apostrophe, Dieu merci. Du jour où il a été question de livre avec les éditions du Seuil. Parce que je connais pas mal les mécanismes de l'édition, puisque j'étais éditeur. Et j'étais un éditeur, donc, qui ne publiait pas des livres, pour employer le mot qu'on emploie aujourd'hui, qui est charmant, dans le créneau d'apostrophe, tellement. Mais enfin, j'ai quand même des auteurs qui sont passés à apostrophe, et j'en étais content pour eux. Mais je sais bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter de passer à apostrophe, et je les comprends très bien, et puis il y a des gens qui, au contraire, feraient pratiquement marquer dans leur contrat qu'ils ne se font publier que s'ils passent à apostrophe. Bon, les deux me semblent assez ridicule. Je pense que finalement, il ne faut pas tricher. Je représente quelque chose dans un type d'édition marginale, suivant les moments odieux ou sympathiques, qui de toute manière fait que Pivot, qui est un type ouvert et éveillé, a toujours pensé que ça serait intéressant le jour où je ferais quelque chose que je passe à apostrophe. Donc de ce point de vue-là, je n'avais pas de problème majeur, encore que j'aurais trouvé marrant de ne pas y passer. Ça m'aurait pas posé de problème grave, j'aurais été peut-être vexé comme un pou, j'en sais rien, mais ça me semblait pas fondamental. Voilà. Ce qui est embêtant, c'est par rapport à tous les gens que moi j'aurais voulu voir passer apostrophe. Et puis voilà, ça s'est pas fait. Alors ça, c'est un peu embêtant. Ouais. Mais enfin, c'est pas comme éditeur que j'y passe, donc c'est pas sur leur travail. Et encore, que c'est un peu contradictoire à ce que je viens de dire. C'est quand même parce que je suis Maspero que je passe à apostrophe et pas parce que j'ai écrit Le Sourire du Chat, prioritairement. Je prends la plus mauvaise hypothèse, un peu. Mais le problème aussi, c'est. Le problème, il se situe dans ce qu'on a à dire et des choses importantes qu'on voudrait dire et de l'impression qu'on n'a pas de choses importantes à dire. Quand on a écrit un livre, finalement, c'est pour exprimer quelque chose. Quand on est arrivé au bout du livre, on a l'impression qu'on a tout exprimé. Alors là je vais vraiment enfoncer une porte ouverte. Hein. Et c'est que aujourd'hui, en fait, on a l'impression que rien n'est fait. Rien n'est fait. Quand on a mis le point final sur le livre, on reçoit, il y a 8 jours, 15 jours, j'ai reçu comme ça une lettre très gentille qui me demandait d'écrire 10 lignes dans un journal plus ou moins professionnel d'ailleurs, pour expliquer ce que j'avais voulu dire dans mon livre, pour m'adresser directement au lecteur, je crois que l'expression c'est à peu près ça, au lecteur anonyme auquel je n'avais certainement pas cessé de penser tout en écrivant mon livre. C'est vrai, j'ai peut-être encore que la notion de lecteur anonyme est difficile, il y a un lecteur anonyme, mais il y a aussi des lecteurs dont on voit le visage quand on écrit. Et c'est vrai qu'on y pense, mais bon, tout ce qu'on a voulu lui dire, on l'a mis dans les... Là, ça fait 320 pages, les 10 lignes supplémentaires, on n'en voit plus du tout la nécessité. Alors le paradoxe, c'est que ça se balade comme dans un miroir, quoi, finalement. Le bouquin est paru, et puis à ce moment-là, on vous demande de figurer dans le miroir et de renvoyer des images du bouquin. Seulement, il n'y a plus que deux dimensions, quoi. C'est très bizarre. Enfin, c'est une impression d'artificiel qui est gratifiante, je suppose. Ça doit être gratifiant. Peut-être, ça chatouille la vanité quelque part. Ça dépend de l'expérience qu'on a. Bon, il y a des moments où on a peut-être envie de se pavaner, il y a des moments où on n'en a pas envie. Moi, dans mon cas particulier, je suis parti de mes éditions il y a 2 ans, j'avais pas un sou, il fallait que je trouve du boulot, j'ai eu une chance extraordinaire qu'un éditeur me permette d'écrire, me donne l'argent financièrement pour écrire un livre. À partir du moment où cet éditeur me fait cette confiance à laquelle je m'attendais pas, il est évident que tacitement, je dois remplir ma part du contrat, donc tacite, ça n'implique aucune dévalorisation, je suppose. Cela dit, c'est vrai, je le répète, que j'ai des quantités de choses à dire sur la revue L'Alternative qui traite des pays de l'Est, et Dieu sait qu'il y a des choses à dire sur les pays de l'Est sur lesquels beaucoup de gens font l'impasse, particulièrement à gauche, sur tous les problèmes qui s'y posent, que ça n'intéresse personne, que ça intéresse peu de gens, et que, par contre, j'ai écrit un livre dans lequel je pense que j'ai mis ce que je pouvais mettre, bon, qui m'intéressait moi, mais qu'à partir du moment où j'ai mis ce que j'ai mis, j'ai plus rien à dire dessus. C'est vrai.
Et
l'artificialité, elle va encore plus loin, puisque le jeu de miroir, il n'est pas double, il est triple, puisque je fais un bouquin, bon, le bouquin se traduit par quelque chose comme apostrophe, par exemple, qui est par ailleurs une très bonne émission, hein, c'est pas le problème, on le sait. Et puis, apostrophe se traduit par le fait que vous faites une émission sur moi qui vais passer à apostrophe. Alors le bouquin, il est de plus en plus loin, et je vous dis, maintenant on est au troisième miroir. Je vais attendre le quatrième, mais je pourrais encore écrire un article sur le fait que, sur ce que je viens de dire. Bon, puis alors, voilà.
Son ami portait l'étoile jaune. Ils n'en parlaient jamais entre eux. En classe, personne n'en parlait jamais. Ça aurait pu être comme si elle n'avait pas été là, mais ce silence n'était pas si simple et beaucoup trop lourd. Elle était soigneusement cousue sur tous ses vêtements. L'étoile, le silence rendait le chat furieux. En zone libre d'où il venait, cela n'existait pas. S'il y avait des types qui commençaient à raconter des histoires de Youpin en ricanant, il fonçait dedans. Il était toujours le plus jeune de sa classe, mais il tapait toujours plus vite que tout le monde. Et en vrai chat maigre. Il se transformait en une insaisissable pelote de poings et de griffes qui semait la panique. Son frère le lui a répété depuis qu'il est tout petit. À partir du moment où tu as décidé de taper, rappelle-toi que tu dois faire mal. Sans ça, c'est pas la peine. Faire mal et taper le premier. Si tu ne sais pas être le plus méchant, il vaut mieux rester tranquille. Cogne au nez, au ventre, et il lui donnait des leçons. Mais à Paris, c'était le silence. Cela faisait partie du code. Il n'arrivait pas à comprendre comment les gens pouvaient vivre avec ce machin-là sous le nez, en faisant comme si de rien n'était. Il en avait parlé avec son frère. Mais lui répétait toujours que cela faisait partie des choses qu'on ferait payer à la Libération. Très cher, une fois pour toutes. Ce que l'on construirait alors ferait que le monde serait nettoyé pour toujours de toute cette injustice et de toute cette bêtise. Mais en attendant, est-ce que tout le monde n'aurait pas pu faire comme le roi du Danemark, qui était sorti dans la rue avec une étoile jaune?
Bon, ben, je sais pas, apostrophe. Ça dure une heure, il y a 5 ou 6 personnes. Bon, on parle 5 à 10 minutes chacun. Bon, c'est bien. Mais c'est bien, et puis je crois ce qui est formidable, apostrophe, c'est que parce que tout le monde respecte chez Pivot et qui est vraiment fondamental, c'est cette véritable ce travail qu'il fait de lecture des livres, cette passion qu'il semble bien avoir pour les livres et qui n'est pas tellement fréquent. Hein. Alors quand on passe avec quelqu'un comme ça, on n'a pas raison d'avoir d'appréhension. Il n'y a pas de raison d'appréhension. Et apostrophe n'est pas, à ma connaissance, une émission conflictuelle. Et puis, je sais pas, c'est ça, c'est la même... Je crois que ça dépend énormément de qui pose les questions, comment elles sont posées. Et par ailleurs, moi, j'ai pas la télévision. Ça fait longtemps que j'ai pas vu apostrophe. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'est parce que j'y suis allé pour accompagner mon ami Gaston Miron, poète québécois. Et donc, j'ai pas de cinéma dans la tête avant. Hein, ça, c'est bon. Mais le problème, c'est ça. J'y vais pour quelque chose sur lequel bon, je trouve que j'ai tout dit dans mon bouquin et qu'à partir de là, bon, bah... Donc si Pivot ou quelqu'un d'autre, là, il se trouve que c'est Pivot, pose des questions, ben, je répondrai au mieux, et puis voilà. Alors que, je répète, bon, si j'étais passé pour l'alternative dans une émission sur les pays de l'Est, bon, ben, j'avais des choses qui étaient, à mon avis, peut-être plus intéressantes à dire sur... mes amis qui sont en prison à Varsovie en ce moment, ou ce qui n'est pas très original non plus, mais enfin, il faudrait quand même en parler de temps en temps, parce qu'ils y sont pour longtemps et que ce sont des gens bien, moins photogéniques que Valessa. Et puis, ce que représente le mouvement, le développement de mouvements pacifistes à l'Est, par exemple, sur laquelle on a fait des numéros de l'alternative, mouvement pacifiste non officiel, leur répression par les gouvernements.
Et alors, dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous espérez que Pivot va vous poser comme question?
Non, j'ai pas de réponse. Très très franchement, j'ai pas de réponse. Un jour c'est une chose, un jour c'est une autre, et puis j'y pense pas vraiment.
Mais un jour, c'est quoi, par exemple?
Non, justement, je pensais bien que vous alliez enchaîner là-dessus, mais... Aujourd'hui, c'est rien. Oui. Aujourd'hui, c'est rien. La dernière chose, c'est est-ce que vous aimez les chats? Oui, c'était bien. À quoi j'avais de réponse toute prête, du genre, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir mis de baleines dans mon livre, mais c'était difficile de caser des baleines, parce que ça se passe pendant... Caser des baleines, j'ai réussi à caser des éléphants pendant la guerre de 40-45... J'ai pas réussi à casser des baleines, et c'est dommage parce que j'aime beaucoup les baleines. Bon.
Un attentat vient de se produire, avenue des Champs-Élysées, presque au coin de la Concorde, sur la place de la Concorde. Des coups de feu ont éclaté, immédiatement les Français et les Anglais ont riposté.
Vous entendez les coups de feu qui sont tirés par des batteries qui sont mises en... qui sont mises à tirer contre... Il y en a qui perdent pas le nord, ils viennent me faucher mon vélo.
Le chat, il eut peur. Mais où cela commence-t-il, la peur? Le vide affreux de la leçon passue, le blanc absolu, seul devant toute une salle pleine d'individus narquois, lui tordait autant les boyaux, s'insinuait pareillement dans ses veines, le paralysait davantage que ce qu'il a ressenti cette nuit, quand le soldat allemand a éclairé les tickets à terre, et qu'il aurait suffi qu'il le relève le faisceau de sa lampe vers les buissons proches. Là, il n'était pas seul. Il ne peut pas avoir vraiment peur quand il est avec son frère. Cela date peut-être de l'époque où ils sont restés plusieurs semaines à vivre ensemble, seuls, en l'absence de leur mère à Toulon. C'était en 1941. Leur père venait juste de sortir de prison. Leur mère avait réussi à obtenir l'Ausweis, le laissez-passer pour franchir la ligne de démarcation entre zone libre et zone occupée, qu'elle demandait depuis des mois pour raison de santé. Elle était restée à Paris jusqu'à l'épuisement du séjour autorisé, essayant encore d'avoir une prolongation des autorités allemandes. Certes, durant ce temps, des amis veillaient sur eux, mais quand le chat était tombé malade et qu'il avait eu de grandes fièvres, il se dressait la nuit en hurlant, yeux ouverts sur des cauchemars diffus qui jaillissaient de l'obscurité, de l'espace soudain distordu. C'était son frère qui était là, près de lui, à le calmer, à le faire boire, à lui parler très doucement ou à le veiller, silencieux, rassurant, chassant angoisse et abîme par sa seule présence.
C'est par timidité que vous avez une voix très, très douce, très voilée, très...
Ça, j'ai la voix que je peux. Hein. Je ne sais pas si c'est par timidité ou pas. Mais... je ne peux pas vous répondre, je parle comme ça. Et vous savez, le micro, c'est quand même une invention formidable. Et au contraire, à partir du moment où on a un micro qui est, à, dans ce cas précis, à 15 cm de ma bouche, je ne vois vraiment pas pourquoi je parlerais plus fort, puisqu'il y a quelqu'un qui est en train de, très gentiment, de régler le bouton rouge... pour suivre la voie. Alors pourquoi je m'amuserais, puisque je sais qu'il est là, qu'il m'a dit au début qu'il n'y avait pas de problème, pourquoi je parlerais plus fort? Alors le problème, c'est que ce qui sort peut-être peut apparaître structuré, et en même temps, c'est un compromis d'un certain nombre de bafouillements. Je pense que quand on fait un métier qui est lié à ce qui est écrit, justement, c'est parce qu'on ne sait pas s'exprimer. C'est parce qu'on n'a pas... On a choisi de s'exprimer autrement que verbalement, et je n'ai aucune habitude de l'expression verbale. Avec les éditions que j'ai faites pendant 20, je ne sais plus combien d'années, 25 ans, ce n'étaient pas des éditions qui étaient particulièrement prisées des médias officiels de l'époque, donc je ne peux pas dire que j'étais invité... énormément. Ceci dit, je le regrette pas, parce que moi j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Là, j'y arrive à peu près, mais dans la vie courante, hein, parce que j'ai des problèmes d'élocution. Je suis bègue en rentrée, donc je construis mes phrases à l'avance. Je m'exprime mieux finalement. Je suis plus à l'aise finalement quand je parle une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Parce que tout d'un coup, je m'écoute parler, c'est formidable. En espagnol, par exemple, je trouve que... Il m'est arrivé de me faire une fois au magnétophone une conférence en espagnol pour la faire en français, parce qu'il y avait une médiation là, qui se produisait, hein, et beaucoup plus agréable que d'essayer de se construire des phrases dans sa tête qu'on ne retient pas, etc. Donc j'ai du mal à m'exprimer, donc ce n'est pas particulièrement agréable de passer ni à une émission de télévision... ni à beaucoup d'émissions de radio, encore que la radio, c'est très très particulier, parce que c'est un côté très... ça se maîtrise plus, enfin on est dans un espace clos, y a, l'œil de la caméra est absent, le micro est très différent de l'œil de la caméra. Moi je panique toujours dès que j'ai trois personnes à qui m'adresser, hein, et ça... j'ai été dans des mouvements politiques, j'ai des souvenirs de réunions de cellules de 8 à 10 personnes où le fait de prendre la parole après 7 personnes était certainement 10 fois plus paniquant qu'apostrophe avec je ne sais pas combien de millions de spectateurs.
Une quinzaine.
Ah oui, c'est beaucoup.
Bon, vous dites difficulté d'élocution, ça veut dire que vous avez des difficultés réelles ou que vous fantasmez des difficultés?
Non, je ne fantasme pas. Je sais que s'exprimer en public, c'est toujours le résultat d'une sorte de compromis qui se passe comme ça très rapidement, mais où on arrive. on arrive à avoir une élocution qui semble bien construite, mais en même temps, elle manque de spontanéité terriblement, parce que on prépare les phrases à l'avance, comme quand, je sais pas si vous parlez allemand ou si vous essayez de parler allemand, mais l'allemand se prête bien comme exemple, parce que, puisqu'en allemand, il faut mettre systématiquement tous les verbes à la fin, donc on a tendance à construire la phrase à l'avance dans sa tête. Alors je me conduis un peu avec le français comme quand je parle l'allemand, et c'est pour ça que je disais que par contre, finalement, parler l'espagnol, c'était bien, parce que la démarche était la même, mais au moins c'était justifié, puisque c'était pas ma langue, et donc n'importe qui serait forcé de faire cette chose-là. Hein. Et finalement, moi je considère que quand on a dit 10% de ce qu'on voulait dire quand on est passé à la radio ou à la télé, eh ben, il ne faut pas désespérer, quoi. Encore, faut encore récupérer ces 10%. Bon. Alors qu'un homme public, lui, il a fonctionné tout à fait à l'inverse. Il a préparé ses 4 idées clés, hein, qu'il placera, quoi qu'il arrive, quelle que soit la question, hein, parce que c'est important pour ce qu'il défend. Hein, je prends le meilleur des cas, de les caser, et rien ne l'en fera dévier. Et il a travaillé la conduite du débat, l'acheminement vers son propos, etc. Bon, toute chose qu'il différencie du commun des mortels, c'est la spontanéité. Elle se travaille.
Et vous avez le temps de préparer une phrase dans la tête
avant
de la dire ?
Non, j'exagère un peu. Mais effectivement, plus le débat est un peu s'entoure de, je dirais pas de solennité, mais enfin où ce qu'on dit est censé représenter ce qu'on est, j'ai ou des gens comme moi ont tendance à préparer des phrases à l'avance qui, le temps qu'ils les préparent, sont complètement en porte-à-faux au moment où ils les disent. Bon, ce qui fait que finalement ils les disent pas, et à ce moment-là, tant pis pour eux.
Et puis j'étais peut-être aussi la présence de Maspero qui m'a aussi. C'est très important ça. Très très important.
Annie Ernaux.
J'ai senti que lui, il était, je vais dire, plus déphasé que moi. Plus encore. Parce que lui, plus à vif, plus c'est un homme qui a bagarré, qui a payé de sa personne pour des tas de choses, hein, la guerre d'Algérie, sa librairie plastiquée, etc. Et je le sentais tellement, donc, vraiment énervé, vraiment, il savait qu'il ne saurait pas parler de son roman, que moi, ça me dopait presque de me dire que je n'étais pas toute seule.
Le soir d'apostrophe, les abords du plateau dans les studios d'Antenne 2, rue Cognac-Jay. Une demi-heure avant l'émission, on passe une légère couche de poudre sur le visage des participants afin d'éviter les luisances de la peau et les reflets dans la caméra. François Maspero est assis là-bas dans une cabine de maquillage qui est tout illuminée par une rampe de lumière très crue.
Alors, attendez vos impressions sur l'opération de maquillage que vous êtes en train de subir.
Écoutez, j'ai vraiment aucune impression.
Vous vous sentez comment, là, à quelques minutes d'entrée sur le plateau ?
Bah, écoutez, je me sens pas si mal puisque vous êtes là, de toute manière, c'est sympa. Mais c'est à peu près tout ce que je peux dire.
Ça vous donne pas une impression de théâtre, d'être acteur, là, tout d'un coup ?
Je sais absolument pas quelle est l'impression que ça donne quand on est acteur. Je suppose que ça doit... Oui, je sais pas, peut-être, oui, si vous voulez, oui. Mais vraiment, si vous voulez.
Non, moi, je veux pas du tout.
À présent, les photographes
sont en train de mitrailler les invités en attente sur le plateau. Bernard Pivot est déjà installé à sa place.
J'ai remarqué que les tout petits chats s'amusent dans les miroirs et ensuite quand ils deviennent grands, les miroirs les intéressent.
Les métiers, c'est comme les pantalons, ça va aussi bien en prix qu'aux garçons.
Aujourd'hui, les métiers n'ont pas de sexe.
En prison, à l'école, en dehors, dans toutes directions.
Well, ce soir d'avril 1984, l'émission Apostrophe s'est déroulée comme d'habitude sur 70 minutes. Elle fut suivie ce soir-là par 14 500 000 téléspectateurs qui avaient couché les enfants de bonne heure, sans égard pour le thème de la soirée, jeunesse. François Maspero y a fait de son mieux en compagnie d'Annie Ernaux, qui était assise à côté de lui. Tous deux avaient pour vis-à-vis messieurs Jacques Brenner, Alain Bosquet et Georges-Emmanuel Clancier. Le lendemain, Maspero était beaucoup plus détendu que sur le plateau lui-même où il s'était senti enserré par la grande machine menaçante du direct audiovisuel.
C'est un contexte général, effectivement, on a l'impression qu'il y a des choses mauvaises qui se promènent là. Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Est-ce qu'on ne va pas être changé en pierre ? Le problème, finalement, c'est ça, c'est de pas être transformé, en tout cas, en chose.
Vous étiez très tendu, quand même.
Ah bah oui, on est forcément très tendu, et puis, oui.
Moi, j'avais peur que ce, notre suivi comme ça, qu'en fait, ce soit une gêne. Et le fait de...
Non, au contraire, je crois que le fait de pouvoir dire comme ça, comme sur un carnet de notes, avec une oreille... des oreilles qui vous écoutent et qui vous écouteront. comme ça, pouvoir dire au fur et à mesure le sentiment de un peu de dérision quoi, qu'on éprouve, c'est pas mauvais. Quoi. C'est vraiment pas mauvais du tout. Cela dit, le sentiment de dérision, c'est compliqué, parce que justement, par exemple, hier, vous venez me poser des questions au moment dans la cabine de maquillage. Bon. Alors, la cabine de maquillage, c'est quelque chose, moi, que j'ai vu souvent dans des émissions de télévision. Et le comportement des gens qui vont se faire maquiller, ça a quelque chose de très pénible, parce qu'il y a une espèce de rire, comme ça, gêné. Or, en fait, le maquillage, qu'est-ce que c'est ? C'est pas un maquillage pour rendre les gens jolis, c'est pour éviter les reflets. Bon. Et puis, bon, par ailleurs, c'était vrai que dire, bon, qu'on en... d'éprouver une sensation de dérisoire totale dans cette cabine de maquillage, c'était gênant pour les gens qui font leur boulot tous les jours. Bon. Et tout ça, c'est ça la complexité. C'est ça la complexité. Et on est pris dans ce jeu-là tout du long. C'est-à-dire que même quand on dit, bon, ben, il faut que je coupe la parole à Pivot, on se dit, non, il faut lui laisser faire son boulot, ce type-là. C'est ça, quoi. Et on se trouve comme ça devant un jeu comme ça, triple, quadruple, et on ne sait pas comment s'en dépêtrer, parce qu'on n'est pas professionnel de tout ça, et finalement. Et finalement, on en sort un peu, on en sort tout à fait comme on sait qu'on va en sortir, c'est-à-dire démoralisé, quoi.
Parce ah que, bon
bah oui, parce qu'on se dit, bon, il y avait des choses à dire, on les a pas dites. C'est ce que j'avais essayé de dire à propos du livre d'Annie Ernaux. Elle écrit son livre ligne à ligne, mot à mot, comme ça, pendant des mois et des mois, et puis tout d'un coup, elle se trouve. À la 10 minutes, les gens qui étaient en face d'elle semblaient avoir une sorte de réflexe de professionnel sur la défense. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à dire, c'est que finalement, elle était une professionnelle comme eux. Donc. J'ai pensé aux aventures de Babar, le roi des éléphants. C'est pas que je me considère comme le roi des éléphants, mais dans les aventures de Babar, il y a les vacances de Zéphyr, le singe Zéphyr. Le singe Zéphyr. Il faut qu'il aille rejoindre Isabelle, qui est prisonnière des gogottes. Les gogottes, c'est des méchantes bêtes qui répandent une forte odeur de pommes pourries. Et quand on les fait parir, ils vous changent en pierre. Et le problème, donc, c'est de faire rire les gogottes.
Alors, on n'a pas fait rire les gogottes, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'on était, qu'il y avait le singe Zéphyr et Isabelle qui était face aux gogottes.
Bien, alors maintenant, je vais demander à tous les trois. Il se trouve que tous les trois, vous avez écrit, des, je disais en présentant ça, des romans à caractère autobiographique. Il est évident que vous avez raconté, tous les trois, des épisodes de votre vie. Alors, je voudrais savoir pourquoi. Et François Maspero, alors vous, pourquoi?
Moi, je ne sais pas si c'était moi quand j'avais 13 ans. C'est certainement moi aujourd'hui. J'ai écrit ce livre, c'est un roman. J'ai tenu à dire au début que ce n'était pas une autobiographie, parce que contrairement à la démarche d'Annie Ernaux, je ne pouvais pas parler d'événements que j'ai vécus, de gens que j'ai aimés, directement comme ça.
À la première personne.
Des gens qui sont morts. Et c'était les trahir, encore une fois, contrairement à la très belle citation de Genet, qui est au début de la place. Et moi, c'est la démarche complètement inverse. Écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi. Et je pensais que si j'écrivais, je disais mon père était comme ceci, ou mon frère était comme cela, j'avais encore une trahison, j'apportais une trahison, cette écriture était une trahison. Alors j'ai fait un roman où on trouve des personnages qui ressemblent, qui sont parallèles à ceux que j'ai connus, avec beaucoup de personnages qui n'ont jamais existé.
Ouais.
C'est un roman.
Oui, c'est un roman et en même temps, c'est votre vie. Bon, on y viendra tout à l'heure.
Est-ce que c'est important pour vous, les gens qui sont autour dans...
Alors ça, c'est l'autre aspect qui arrange pas les choses. C'est que finalement, on se dit, bon, on va aller là, c'est comme les autres. Bon, on a publié son bouquin, on va essayer d'en parler calmement, tranquillement. Et puis, il se produit autour d'Apostrophe, à cause du phénomène qu'est Apostrophe, et c'est là qu'on retombe toujours sur le même problème, qu'Apostrophe est une émission remarquable, et qu'en même temps, qu'elle soit unique, le fait qu'elle soit unique, parce qu'elle est remarquable, fait qu'elle a pris un statut délirant. Les gens, dans les 8 jours qui précèdent, c'est insupportable. Tout le monde vous dit, tu vas passer à Apostrophe, qu'est-ce que tu vas dire? Et d'un ton inquiet, des gens qu'on ne connaît pas. Au seuil, quelqu'un qui a lu mon livre, qui le trouve bien, qui me dit, mais qu'est-ce que vous allez dire à Apostrophe maintenant? Et on se dit, bon, bah, restez tranquille, pensons à autre chose. Non, parce qu'il y a ceux qui très fraternellement viennent vous accompagner. Bon. Mais en même temps, ça, quand on arrive là, et ça je l'avais déjà vécu avec d'autres, c'est l'équipe des supporters, enfin ça aussi c'est assez dur, parce que quoi qu'on fasse, on est chauffé comme un boxeur, et c'est ridicule, c'est complètement ridicule. Alors, là, on peut avoir des défenses, par exemple, puisque tout le monde est là pour vanter son livre, et que finalement Pivot lance, et puis après il faut enchaîner. Bon, il y a des gens qui le font bien, il y a des gens qui le font mal, il y a des gens qui le font d'une manière charmante, comme dans cette émission-là, Georges-Emmanuel Plancier, parce qu'il a raconté son livre, et que son livre était un beau livre, et que c'était bon, c'est tout. Et que la vie de Plancier, c'est quelque chose de respectable et de bien. Et puis il y a ceux qui essayent de faire valoir la marchandise. On a vraiment envie de répondre par oui ou par non. Quand Pivot vous parle, on se dit, bon, bah, au moins, là, c'est un luxe que je me paye.
Donc, je résume, hein, le livre, c'est que, parce que je pense que vous n'aurez pas aimé le raconter, c'est donc le chat a un frère qui a 19 ans, à peu près, ou 20 ans, qui a 19 ans, et qui est un résistant, qui fait dérailler des trains, qui fait des tracts, qui fait des tas de choses, et qui tue coup sur coup trois officiers allemands, et puis le troisième, ça se passe mal, le camarade avec qui fait le coup est arrêté, sera fusillé, et lui en réchappe par miracle, et la Gestapo vient arrêter toute la famille, donc le père... et la mère et le frère aîné en réchappent, enfin pour le moment. Bon, et ces trois se retrouvent à la Gestapo, et puis l'enfant, comme il a 13 ans et demi, on le relâche, et puis le père et la mère partent en Allemagne, en camp de concentration. Et alors, on se dit peut-être que le chat, vous, peu importe, mais c'est que toute sa vie, il se dira « Pourquoi je ne suis pas allé avec eux ?»
Oui.
Hein ? Et c'est ça, cette cicatrice dont je parlais tout à l'heure, elle est là, non ?
Oui.
Alors, le frère aîné.
Alors, c'est pas méprisant, c'est pour les quelques millions de spectateurs qui n'ont pas tourné le bouton quand ils ont vu nos gueules, qui sont restés, je sais pas pourquoi. Mais j'espère que c'est pas méprisant pour eux. C'est une manière de, quand même de se dire que bon, on est quand même un peu libre sur ce plateau, c'est ça quoi. Alors, il suffit que on se comporte d'une manière. Tous les gens savent tout sur Apostrophe. Bon, moi, je sais rien puisque je répète. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas vu une émission d'Apostrophe parce que j'ai pas la télé. J'ai pas la télé, pas par choix, mais comme ça. Ces temps-ci, bon. Bon, moi, j'ai pas vu grand monde depuis hier soir. Simplement, on m'a dit que j'aurais pas dû interrompre Pivot parce que Pivot connaissait son affaire. C'est vrai que moi, je la connaissais pas du tout. Voilà. Alors là, on a, je sais pas, mais ça c'est une impression plus générale qui est que quelquefois on dérange le jeu. Et puis finalement, on n'en tire aucune vanité de déranger le jeu. On se dit, bon, excusez-moi, monsieur, dame.
Je suis très reconnaissant à Maspero d'avoir dit une chose, Buchenwald. J'y étais le 12 avril 1945, 5 heures après l'ouverture. J'ai vu les détenus et ma première réaction a été, je l'avoue, mais c'est 40 ans plus tard, je peux le dire, c'est le dégoût et de me dire, ces gens-là, ils me resteront au travers de la gorge et de la conscience jusqu'à mon dernier jour. Oui. Je plaide coupable, mais j'ai eu exactement ce sentiment-là.
Oui, mais Alain Bosquet, alors j'étais tout à fait surpris.
Vous n'avez pas l'air en mauvais état, là.
Pardon ?
Vous n'avez pas l'air en mauvais état, là.
Non, justement.
Non, mais j'ai tout à fait surpris, c'est que vous racontez effectivement votre visite à Buchenwald quelques heures après l'ouverture du camp, et vous y découvrez des chambres à gaz. Il n'y a jamais eu de chambres à gaz à Buchenwald. Il y en a eu dans d'autres camps, mais pas à Buchenwald.
Il n'y a pas eu de chambres à gaz. Bon, ben,
Il y a eu des fours crématoires, oui. Mais il n'y a jamais eu de chambre à gaz. Hein.
Des fours crématoires, c'est ça.
Ah oui, ah ben oui, non, mais vous racontez comment oui. La personne...
C'est une erreur, moi c'est des fours crématoires.
Il a été établi que les chambres à gaz de Buchenwald étaient prêtes.
Étaient prêtes, c'est ça.
N'étaient pas construites, les plans étaient prêts, on n'a pas eu le temps de les construire.
Ah oui, non, mais non, on ne peut pas les visiter.
Non, on ne peut pas les visiter.
Ah, oui. 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 Allez, alors, ce sont les pièges de la mémoire, probablement.
C'est les pièges de la mémoire.
Ouais. C'est ça.
C'est pour ça qu'on a écrit un livre.
Bon, alors, il y a effectivement beaucoup d'épisodes sur la guerre, parce que vous êtes aussi à la conférence de Potsdam,
oui.
Donc vous êtes vraiment aux premières loges pour vivre... Alors, vous avez des aventures extraordinaires, vous êtes radiologue aussi aux États-Unis pendant
ça,
la guerre.
Ça, c'est la folie de la guerre, n'est-ce pas ? Vous êtes radiologue et on vous met dans un autre service. Mmh. Vous savez faire quelque chose, on vous déplace. C'est comme ça. Là,
je dirais que dans cette guerre... qui est terrible pour tout le monde, vous avez de la chance, parce que c'est vrai que, en plus de ça, vous êtes journaliste, vous faites vos débuts de journaliste aux États-Unis dans un journal gaulliste, et c'est d'ailleurs là que vous racontez que vous prenez votre pseudonyme, vous appelez, votre vrai nom, c'est
Bisk,
et votre prénom.
Oui, Anatole.
Anatole Bisk, et là, c'est là où vous changez, vous donnez Alain Bosquet pour... Et puis, vous êtes, je dirais, un séducteur. Quand vous êtes à Montpellier, allez Montpellier-Rennes, hein, mais il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas passés dans votre ligne.
Mais il faut faire la guerre, mon cher. Sur tous les flancs.
Hein, c'est triste, en plus. Vous avez la chair triste. Oui.
Ah bon.
Je trouve ça très triste. Mais si, les femmes défilent. Vraiment, il y en a beaucoup,
mais
beaucoup.
Mais c'est aussi peut-être la peur d'aimer, parce qu'on n'a pas le droit. On est mobilisé, on va changer, où va-t-on s'arrêter? À qui peut-on se donner, même pas à soi-même?
Mais il y a même une prostituée qui vous enferme pour rester avec vous et qui rose la rose. C'est vraiment un passage tout à fait savoureux.
Eh bien, elle y a cru, moi pas.
oui.
Je suis désolé, je voudrais revenir sur quelque chose parce que de cette manière, on a papillonné là et on a parlé de chambre à gaz et c'est désagréable, c'est assez odieux. Papillonner comme ça sur. Rose la rose. La question, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas de chambre à gaz à Buchenwald. Oui. On ne peut pas filer comme ça sur cette constatation, même dans une émission comme celle-là. Moi, pour faire ce livre, et parce que c'est une question qui me tient à cœur, j'ai beaucoup travaillé sur cette, j'ai beaucoup étudié cette question. Bon, je dirais pas par rapport à mon livre, pour rester dans le cadre de l'émission, il y a une chose qui est scientifiquement prouvée, en tout cas, c'est l'existence de la chambre à gaz de Ravensbrück.
Ah oui, mais ça...
Oui,
non,
mais je parle par rapport à la... L'émission même, parce que j'en parle dans mon livre.
J'ai dit qu'il n'y avait pas à Buchenwald, mais qu'il y en avait ailleurs. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas dans d'autres camps.
Je ne vais pas absolument pas en cause ce que vous avez dit, vous, Bernard Pivot, mais dans une émission comme celle-là, on file tellement vite sur des choses tellement, quelquefois, importantes, et qui sont tellement, enfin, Vous comprenez, non, les choses, certaines choses ont une importance, d'autres en ont un petit peu moins. Ouais. Mais... Excusez-moi.
Bon, oui.
Non, on ne peut pas tout dire, et de toute manière, on s'exprime très mal parce qu'on est pris, peut-être, ça s'appelle peut-être pas le trac, mais c'est... Enfin, moi, j'ai déjà parlé de mes difficultés d'élocution la première fois, et c'est vrai, elles sont réelles. Il y a plusieurs choses qui se superposent, comme toujours, dans ces cas-là, et ça va très vite. Il y a une impression, je ne sais pas si c'est ça qui est majeur, mais il y a une impression que, dans une émission de ce genre, tout est équivalent. Tout a la même valeur. Je crois que Brenner a dit à un moment, en parlant de ses mémoires, rien n'a d'importance. Et c'est ça qu'on a. Dans ce genre de travail, d'émission, c'est ça. Tout est pris au même degré, comme un objet de curiosité dont on parle. Alors, évidemment, quand on voit arriver les chambres à gaz et les camps de concentration, et puis qu'on passe tout de suite après aux amours de l'auteur, qui sont tristes, comme a dit très bien Annie Ernaux, on se dit non, c'est pas possible, on peut pas comme ça filer sur... on peut pas filer comme ça, en patinant, comme ça. Je dis papillonner, je dis bon. Ça, c'est l'impression de très grand malaise, hein. Et puis il y avait un problème précis, et bon, ça fait partie, juste ça relève du fait qu'il faut connaître le jeu, et que là vraiment j'étais pas dans le jeu. C'est Pivot a posé une question à Bosquet en lui disant, bon, vous décrivez l'ouverture, vous arrivez à Buchenwald et vous décrivez les chambres à gaz, il n'y a pas eu de chambres à gaz à Buchenwald. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire finalement, et c'est ça que j'ai pas vu, ça voulait dire finalement que Bosquet avait fait un effet littéraire dans son livre, en se souciant très peu de la vérité, avec une affaire qui est effectivement sérieuse. Moi, j'ai pas vu ça. Ce que j'ai ressenti tout de suite, c'était que finalement, en restant là, le problème Bosquet était bien abordé, mais le problème des chambres à gaz, qui est quand même le plus sérieux, était du même coup... Là, on aborde la question des chambres à gaz, c'est-à-dire la question Faurisson, c'est-à-dire de cette aberration qui consiste à revoir l'histoire finalement d'une manière telle qu'elle se pratique dans le système stalinien, c'est-à-dire on gomme l'histoire, on la réécrit éternellement. Bon, maintenant, aujourd'hui, Faurisson, une espèce finalement, il agit comme un petit Big Brother d'Orwell à son compte, il dit... Moi, je réécris l'histoire, je peux vous apporter la preuve qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz. Bon. Enfin, on connaît l'histoire, on connaît cette affaire-là. Finalement, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est que en passant comme ça d'un sujet à l'autre, Pivot est pris par son sujet, semblait dire, bon, il n'y a pas eu de chambre à gaz à Buchenwald, et puis passons à autre chose. Bon. De là à dire, il n'y a pas eu de chambre à gaz, bon, finalement, j'ai là un témoin, bon, puis je vous fais la preuve que ce témoin ment. Bon, alors... C'était important de savoir que Bosquet mentait, mais en même temps, le sujet n'était pas en cause. Et le sujet, c'était ça, c'était les chambres à gaz. Donc, tout d'un coup, je me suis dit, non, c'est pas possible. Moi, il faut que je dise quand même que je confirme qu'effectivement, s'il n'y avait pas de chambres à gaz à Buchenwald, c'est parce que les plans étaient prêts. On les a retrouvés et on n'a pas eu le temps de la construire. Simplement, je voulais dire, voilà, bon... Il n'y a pas eu de chambre à gaz à Buchenwald, d'accord, mais il y en a eu ailleurs, point final. Bon. Alors évidemment, à partir de là, toute la polémique Pivot-Bosquet était démolie, le jeu était cassé. Finalement, Bosquet s'en est très bien tiré, puis il a dit des choses qui m'ont donné assez des envies de meurtre comme ça, en passagère, parce que et il a commencé à parler de dégoût qu'il avait éprouvé en entrant dans les camps. Et qu'il avait beaucoup de mal à s'en remettre. Bon, il avait une jolie décoration à la boutonnière. Je pensais que ça n'était pas si bien, pas si mal remis que ça, c'est tout. Enfin, bon, mais après, c'était fini. C'est-à-dire que j'avais cassé un jeu et j'en étais pas fier, parce que finalement, peut-être que le jeu était mieux que mon intervention.
L'émission après n'était plus tout à fait la même. Vous avez apporté une gravité qu'il n'y avait pas. Tout d'un coup, on écoutait les choses différemment. Bon, le fait, par exemple, que vous parlez peu et que vous intervenez pas,
ça donne à ce que vous dites une importance accrue.
Non, la question, là, c'est quand même la difficulté de s'exprimer. Et c'est cette parole qu'on laisse filer qui est presque parallèle à celle qu'on voudrait dire, enfin, qui est différente. Et c'est pas quand vous dites que je faisais les phrases à l'avance, mais ça joue presque plus dans ces cas-là. Les phrases qui sortent sont des phrases toutes faites, et en même temps, c'est pas celle qu'on voudrait sortir. C'est complètement l'impression de désastre, quoi. Et notamment, alors ça on risque de filer vers des gaffes terribles. Notamment, je me suis laissé embarquer dans une histoire, c'est vrai, qui me tient à cœur, mais dans laquelle Pivot m'a tout à fait généreusement, d'ailleurs, dirigé. C'est l'histoire des survivants, que les survivants, en tant que survivants, j'ai cité Semprun et cette histoire que les enfants peuvent ne... J'ai parlé d'haïr et c'est pas haïr, finalement, c'est simplement être vigilant, quoi.
Oui. Et ça, c'est... Je pense aussi ça, c'est François Maspero. Il va découvrir bientôt qu'il n'aime pas facilement les survivants, ou il n'admet pas facilement qu'ils aient survécu. C'est un réflexe primaire, il le sait, c'est injuste. Il ne peut rien contre.
C'est pas François Maspero, c'est Georges Semprun. Dans un beau dimanche.
Non, mais là, c'est le chat qui parle.
Oui, je sais, mais c'est pas le chat qui parle, c'est François Maspero qui l'a écrit, et il a découvert ce sentiment qu'il a toujours eu, bien sûr, que j'ai toujours eu. J'ai été très heureux de découvrir ça dans un beau dimanche de Georges Semprun, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de survivants. Quand on est soi-même un enfant de gens qui y sont restés, il y a très peu de survivants qu'on puisse écouter raconter leurs souvenirs de survivants. Il y en a quelques-uns, Kérol, Semprun. Semprun disait très bien que... Il racontait cette histoire, qu'il était allé donner une conférence sur les camps, et puis, à la fin, une jeune Polonaise qui était venue lui dire « Il faut que vous sachiez que nous, les enfants des morts, on a du mal à ne pas vous haïr. » Et c'est vrai, ça, c'est quelque chose que les survivants devraient savoir, qu'ils n'utilisent pas, qu'ils ne racontent pas leurs aventures en passant sur les morts, un regard comme ça, et puis en passant à d'autres aventures. Ceux qu'on peut accepter, ceux qu'on aime, c'est ceux qui parlent des morts comme dans leurs compagnons fraternels, toujours, sans grands mots et sans drapeau.
Oui. Et c'est ce que je voulais parler de tous ceux qui sont rentrés des camps et qui effectivement racontent leurs souvenirs avec des trémolos dans la voix. Et bon, c'est ce que je dis dans mon livre, que les morts, finalement, dans leurs souvenirs, ils sont là pour valoriser les vivants. Bon, ça, c'est pas marrant à encaisser pour ceux qui ont aimé les morts. Et ceux qui parlent des morts d'une manière assez fraternelle, bon, on les aime bien, mais ils sont moins nombreux. Il y a ceux qui ne parlent pas aussi, qui sont les plus nombreux. Ceux qui ne parlent pas, qui n'ont même pas été se faire enregistrer comme résistant ou comme ancien résistant. Moi, c'est tout. Bon, c'était ça que je voulais dire quand je disais qu'il y avait un type de survivant qu'on n'aimait pas rencontrer, ceux qui valorisaient leur expérience, et puis un autre, bon, j'ai pas parlé de l'autre. C'est tout. On prévoit toujours, et on sait très bien, bon, c'est vrai que j'ai quand même un peu plus d'expérience, dans tout cas de la coulisse, sinon de l'émission, puis enfin quand même de d'autres émissions qu'Apostrophe. Donc je sais très bien qu'on prévoit les choses et qu'on peut pas. Je sais que c'est une grosse question que je me pose, est-ce qu'il faut encore écrire un autre bouquin pour se retrouver dans la même situation? Mais on se sent très très piégé.
Voici que rentrent dans l'église les soldats du général Leclerc, casqués, et qui vont essayer de faire de la police, car encore des coups de feu ont été tirés. Malgré cela, vous entendez les chants. Malgré cela, vous entendez les chants religieux qui commencent.
début de l'après-midi de ce 1er mai, jour férié, première fête du travail de la France libérée, tandis que la radio retransmet l'allégresse des travailleurs qui défilent dans la neige fondante, sa grand-mère maternelle sonne à la porte. C'est lui qui ouvre. Ses cousins sont partis vers quelques marchés au timbre. Elle a le visage fermé, la bouche tordue. Elle semble ne pas le voir. Elle pénètre tout droit. Elle l'écarte presque de la main. Elle va s'enfermer avec sa tante. Luc regagne sa chambre. Il s'accroupit sur son lit. Il attend. Il lui arrive des éclats de voix des deux femmes, des sanglots. Plus tard, c'est sa tante qui vient le rejoindre. Sa grand-mère a disparu. Elle est repartie. Peut-être n'a-t-elle pas eu le courage. Elle est retournée auprès de son mari. Il a bien fallu lui annoncer. Depuis la nouvelle de la libération de sa fille, il semblait aller mieux. L'œil moins fixe, la parole moins perdue. Il eût mieux valu attendre encore qu'il puisse supporter le choc. Mais était-ce possible? Cette fois, il ne s'en remettra pas, a-t-elle dit à la tante. La tante est courageuse. Il faut certainement beaucoup de courage pour parler à Luc. Mais est-ce même la peine de lui parler? Elle est assise au bord du lit. Lui s'est recogné de toutes ses forces dans l'angle du mur, une épaule contre les barreaux de cuivre, les genoux relevés contre la poitrine. Non, il ne faut pas beaucoup de paroles. Est-ce vrai ou est-ce un cauchemar, lui dit-elle vraiment. Tu vois, je t'avais bien dit. Ce n'est certainement qu'un cauchemar de plus. Elle ne peut avoir prononcé ces mots-là. Elle est aussi malheureuse que lui. Elle lui caresse le bras. Il retire le bras autant qu'il peut. Il se mord, les poings fermés. Un cri sourd et continu monte et se bloque dans sa gorge. Il ne le libère pas. Ce n'est peut-être qu'un murmure, mais il est tout entier dans ce cri. Elle le laisse seul. Seul, recroquevillé sur son lit, dans la chambre vide, le brouillard des larmes qui ne coulent pas. Non, il ne faut pas beaucoup de mots, pas beaucoup de temps pour dire cela. Un instant, quelques secondes pour l'entendre. La vie entière ensuite pour comprendre l'absence. Antoine lui disait quand il jouait avant la guerre, « Aujourd'hui, je suis le roi et tu dois me suivre partout comme mon ombre. Je te ferai chevalier. » Je te dessinerai tes armoiries avec un aigle. Tu dois m'appeler Padishah, votre Altesse, calife, cheikh, l'islam, commandeur des croyants, émir, mikado, maharaja, dalai lama, grand mogol, inca suprême, empereur de toutes les Indes et pape des bonzes. Voilà, Antoine est mort.
C'était Chronique de la langue parlée, une émission de Claude Duneton. Aujourd'hui, apostrophe numéro 2, l'alternative de Maspero. Avec François Maspero, qui était invité d'apostrophe le 6 avril 84 pour son livre Le sourire du chat, paru aux éditions du Seuil. Extrait lu par Fabrice Lucchini. Prise de son Daniel Bizien. Réalisation Marie-Dominique Arrigui.
Ce Gloria a chanté sous les pétarades est vraiment une chose magnifique. Vous ne pouvez pas savoir l'émotion de tous ces gens qui se sont rassemblés, qui ont eu certainement peur, mais qui ne l'ont pas montré, et qui en tout cas ont prouvé au chef, au nouveau chef de la France, toute leur profonde affection et tout leur amour.
Ah, mais sans cesse, 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 ah, Cette émission a été diffusée pour la première fois le 28 octobre 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ».
Thank you.